France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Antoine Gerber, je suis né le 9 mai 1958 à Paris et je dirige l'ensemble Diabolus in Musica. Les musiques que nous pratiquons viennent du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période très 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 éloignée et aussi très très proche de nous.
Le récit d'une enfance bourgeoise est stricte, mais pas triste pour autant. Antoine Gerber, quatrième d'une fratrie de 6 garçons, nous raconte pourquoi, à 22 ans, en 1972, après de brillantes études en école de commerce, il fuit vers le sud-ouest, vers la terre, le tissage, l'artisanat. Nous sommes toujours assis sur la terrasse de sa maison troglodyte avec vue sur la Loire. Alors, quel est l'élément déclencheur de cette fuite ? Réponse de l'intéressé.
Je découvre un journal qui s'appelle Écologie Info, qui est parmi les ancêtres de toutes les publications qui fleurissent maintenant sur l'écologie, avec une dimension politique aussi. C'était pas des recettes végétariennes et des adresses de pisticlub, c'était très sérieux et très complet. Je crois d'ailleurs que ça a joué un rôle dans la formation de dirigeants actuels de l'écologie, Écologie Info. Et bien sûr, ma compagne, alors qui est devenue la mère de 3 de mes enfants, à l'époque, était aussi dans cette veine-là et voulait remettre en question. Elle faisait Subdeco Paris, moi j'avais fait Subdeco Rouen, c'est-à-dire qu'elle était bien meilleure que moi, c'est beaucoup plus difficile. Mais elle remettait en question ses dogmes économiques et cette manière de concevoir la vie d'entreprise et la vie tout court. Et donc, ça a fait synergie entre elle et moi. Et on a dit qu'on voulait autre chose, donc on s'est embarqué dans cette aventure d'artisanat et puis de vie au grand air, au Pays Basque, on était à la campagne, de vie saine, écologiste et répondant à nos propres envies matérielles et économiques et pas à celles qu'on nous dicte. Voilà, c'était une remise en cause de notre propre vie et puis du monde tel qu'il est. Très peu de temps après, j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts. Je suis pas des plus vieux adhérents de France, mais en tout cas, ici en Indre-et-Loire, je sais. Parce que je suis toujours adhérent de ce parti. C'est quelque chose qui a été très important dans ma vie. J'ai été conseiller municipal pendant 6 ans quand on habitait Fondette, c'est-à-dire la ville qui est exactement de l'autre côté de Tours par rapport à ici. Et c'était quelque chose de très important également personnellement.
Et quand vous coupez comme ça avec la vie à laquelle vous étiez prédestiné, comment ça se passe avec vos parents, avec...
Ça se passe moyennement bien. J'ai un petit peu coupé les ponts, sans les couper bien sûr, mais disons que c'est absolument pas ce qu'ils appréciaient. D'autant plus que les études en gestion des entreprises sont des études chères. Donc ils avaient financé ça, donc c'est évidemment pas la seule raison. Mais je prenais une direction...
Il y a un avion qui passe.
Oui, il y a un avion qui passe dans le ciel bleu, on le voit très bien de Touraine. Il y a le petit aéroport qui est à Tourneur, qui est presque en ville. D'ailleurs c'est un souci, on devrait fermer cet aéroport. Mais voilà. L'avion est passé. Et donc, je prenais une direction qui n'appréciait absolument pas dans toutes les dimensions de ma vie, y compris sur le plan religieux, j'ai pas baptisé mes enfants, etc. Ils me demandaient quand est-ce que je faisais un vrai métier. Je comprends des parents qui disent ça une fois ou deux, mais je l'ai entendu jusqu'à presque la quarantaine. Donc voilà, j'ai eu des rapports compliqués, mais j'ai fini par réussir un petit peu, percer. Et ils l'ont reconnu et c'est très très bien de leur part. Et je mets à leur crédit. Ils ont beaucoup apprécié, ils sont beaucoup venus au concert après. Ils étaient très fiers quand il y avait un article dans le journal. Voilà, ils ne sont pas restés sur cette mésentente.
Quand vous avez 22 ans, vous prenez donc cette décision, ça se passe dans le sud-ouest, vous allez fonder une famille aussi. Et la musique, elle arrive comment là-dedans? Parce qu'au début, c'est pas la musique, Antoine Gerber.
C'est pas la musique qui me fait partir. Mais bon, la musique est partout. Non, c'est une volonté de vivre différemment. Donc, on s'installe comme artisan. Mais tout de suite, on s'inscrit à la chorale du coin. Il faut dire que ma compagne, qui n'était pas chanteuse, était la fille du chef de chœur de Asnières. Voilà. Donc, en fait, la musique m'a fait aussi, a beaucoup donné à ma vie sur ce plan personnel aussi. Donc, Marie-Françoise, qui est malheureusement décédée, d'une rupture d'anévrisme quand elle avait 50 ans. J'étais déjà séparé d'elle, mais ça ne change pas le fait que ça a été terrible pour mes enfants qui étaient dans la grande adolescence et jeunes adultes. Avec Marie-Françoise, on a construit notre vie, y compris avec la musique. Donc, on s'est mis à chanter dans des chorales au Pays Basque. Et puis à Pau, puisque au bout de 3-4 ans de vie d'artisan, économiquement, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais on s'est absolument pas démonté. Marie-Françoise s'est inscrite pour faire une formation d'informatique et de comptable et a immédiatement trouvé du travail donc à Pau, en Béarn, pas très loin du Pays Basque. Donc j'ai émigré à Pau, je me suis inscrit à la chorale de Pau, même au conservatoire de Pau, mais là j'ai 26 ans je crois, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un conservatoire. Parce que je commence à me poser beaucoup de questions sur les répertoires anciens. Dans les chorales, on fait pas de Moyen-Âge, évidemment, c'est pas du tout fait pour. Mais je remarque que plus les répertoires sont anciens, donc la Renaissance, Clément Jeannequin, Josquin, Lassus, plus c'est ancien, plus ça me parle. Et je commence à gratter un peu de ce côté-là. Et au conservatoire de Pau, il y a un prof de guitare qui joue du luth. Et qui a fait un concert Renaissance avec la chorale et on commence à travailler ensemble. Jean-Claude Zéronian, je me souviens très bien. Et on commence à chanter des airs de cour, on commence à chanter des airs 16e siècle, des petites chansons, des chansons à boire, des choses plus ambitieuses. C'est un excellent souvenir, j'ai beaucoup découvert là. Et puis arrive 1986. Donc en 1986 est organisé un stage de chant grégorien dans la vallée d'Aspe, à côté de Pau, abbaye de Sarens exactement, un petit village. Et c'est Dominique Vélard qui vient faire un stage de chant grégorien. Or il se trouve que j'étais allé à un concert vraiment par hasard, mais il n'y a pas de hasard, bien sûr, bien entendu, il n'y a pas de hasard. J'étais allé à un concert de Dominique Vélard à la Petite Maison des Jeunes et de la Culture de Courbevoie. Il faudrait que je retrouve l'année, mais je dirais 1982 peut-être, ou 81. Le jeune Dominique Vélard avec Gérard Laine, qui va aussi faire une carrière incroyable. Gérard Laine avec les cheveux qui lui tombe sur les épaules, très très baba cool avec son oud. Et c'était un concert de chant de troubadour. Donc pas ce qu'a fait Gérard Laine après, bien sûr, mais ce que Dominique a fait dans son ensemble Gide Minchois. Et là aussi, ça a été un choc de découvrir la voix de Dominique, qui chante des répertoires très anciens avec une voix non vibrée, enfin pas du tout un ténor d'opéra ou un ténor qui chante du lead ou ces répertoires-là. Et j'ai tout de suite pensé, mais moi aussi je chante comme ça. Tout de suite, mais voilà, sans aller plus loin, j'avais adoré ce concert-là. Donc quand j'ai vu que, par chance extraordinaire, Dominique Vélard venait faire un stage de chant grégorien, vous savez, le petit stage de 4 jours, le week-end de l'Ascension à l'abbaye de Sarens, pas loin de Pau, pour une fois, il y avait un grand chanteur qui venait faire quelque chose d'intéressant, j'y suis allé. Et il se trouve que c'était un stage de chant grégorien, ça aurait été un stage de Monteverdi ou de Josquin, ou même de jazz vocal avec Dominique Vélard, j'y serais allé. Et ça a été un choc absolu, donc le chant grégorien pour moi c'était les moines de Solem, voilà, ça m'intéresse pas du tout, on aime ou on n'aime pas, ça peut être très très bien, très très joli, très très planant, très inspiré, mais c'était pas du tout ça qui m'intéressait. J'allais pour Dominique Vélard. Et en fait, c'est le chant grégorien qui m'a attrapé par la manche. J'avais mis le petit doigt dans l'engrenage parce que j'ai découvert le répertoire, j'ai découvert comment il était chanté par un grand chanteur qui est Dominique. En plus, avec une voix de ténor qui était pas si éloignée de la mienne, je suis prétentieux en disant ça, mais voilà, je trouvais tout de suite des connexions, des manières de faire que lui avait, même des coups de glotte, des ornements, des choses que peu de chanteurs font, tout de suite je me suis mis à l'imiter bien sûr. Puis j'ai découvert la notation, incroyable. J'avais jamais vu un homme, je savais même pas ce que c'était un homme bien sûr, comme tout un chacun. Les neumes, c'est une espèce de sténographie, ce sont des petits signes que les moines notaient, c'est un aide-mémoire pour les moines, et c'est les premières notations musicales dans l'histoire de la musique. Ça apparaît au cours du 9e siècle, après le règne de Charlemagne. On commence à avoir besoin de l'écrit pour des raisons très complexes et très discutées par les historiens et les musicologues. Mais disons que la papauté et l'empire, au début du 9e siècle, veulent unifier les territoires qui sont très très diversifiés et qui chantent des pleins chants, des manières de faire très très différentes pour la liturgie chrétienne qui s'est répandue dans l'Europe de l'Ouest et dans le nord de l'Afrique aussi, autour de la Méditerranée, avec des cultures, des manières de faire, des langues différentes, vraiment une mosaïque de peuples évidemment très très contrastée. Et au cours du 9e siècle, pour des raisons politiques, à la fois la papauté et le pouvoir carolingien veulent unifier leur domaine. Et ça va passer par la liturgie, bien sûr, c'est l'empire très chrétien d'Occident. Ça passe par les liturgies, ça passe par le chant, puisque la liturgie, c'est du chant. La prière, c'est du chant, pas autre chose. Et donc, il faut unifier les manières de chanter. Et donc, on va imposer en Gaule. En France ancienne, les chanteurs français étaient très réfractaires à beaucoup de choses. Ils avaient leur manière de faire, mais on veut leur imposer la manière de faire de Rome, bien entendu, avec des territoires du pape, avec l'autorité papale. Et bien sûr, ça ne va pas se passer de façon aussi simple et évidente et facile. Il y aura des résistances. Et en fait, c'est un nouveau plein chant qui naît au cours de ce 9e siècle, qui est une adaptation plutôt qu'une adoption de ce qui est chanté à Rome dans les territoires pontificaux. Et ce nouveau plein chant, c'est ce qu'on a appelé plus tard le chant grégorien, qui naît au 9e siècle. Comme il est nouveau, il faut l'imposer rapidement dans les grandes cathédrales. Un des moyens, évidemment, faciles, techniques, ce sera d'écrire, de trouver une notation pour ces nouveaux répertoires. Et c'est donc les premières notations de notre histoire musicale. L'histoire de la notation, c'est passionnant. C'est plusieurs conférences, hein, parce que... Et en plus, c'est magnifique quand vous voyez les manuscrits, parce que l'écriture n'est pas encore tout à fait unifiée au 9e siècle, même pas du tout. Il y a une dizaine d'écoles de notation entre, évidemment, le nord de l'Europe, le sud de l'Espagne, la notation même bretonne à l'extrême ouest. Il y a plusieurs manières de faire, mais c'est vraiment un domaine magnifique. Il y a des manuscrits musicaux qui sont magnifiques à regarder, même sans les chanter.
France Musique, les grands entretiens d'Antoine Gerber.
Cette voix que vous avez, c'est une voix de ténor.
Oui, j'étais ténor, oui.
Et cette voix, finalement, vous ne l'avez travaillée, Antoine Gerber, que parce que vous chantiez dans des chœurs, pas forcément avec des professeurs, jusqu'à âge avancé. Comment est-ce que vous avez eu les premiers professeurs de chant, alors ?
Alors, j'ai eu mes premiers professeurs de chant assez tôt à Pau. Assez tôt, extrêmement tard.
En fait, vous êtes dans la vingtaine, vous êtes déjà parti de chez vous, vous avez fait votre crise et tout ça.
Presque 30 ans quand je commence à avoir un professeur de chant et quand je me dis, moi, maintenant je suis musicien professionnel, j'ai 29 ans je crois exactement, où je me souviens m'être dit, voilà, je suis professionnel, un jour j'ai décidé ça, c'était sympa, amateur, mais maintenant c'est sérieux, parce qu'à ce petit stage de 4 jours qui m'a quand même bien nettoyé la tête et fait souffler beaucoup de tempêtes à l'intérieur. Il y avait un autre choriste qui s'appelait Dominique Touron et qui venait de fonder un petit ensemble amateur avec son frère et sa sœur. Vous voyez, c'était vraiment des conditions très particulières, et qui s'appelait Diabolus in Musica, et qui connaissait très très bien beaucoup de choses. C'est vraiment le grand amateur musicologue qui travaillait déjà sur des facsimilés. Voilà, c'était quelqu'un qui était graphiste, qui est toujours graphiste, et qui était un grand professionnel dans ce qu'il faisait. Il dessinait des étiquettes de vin pour les producteurs de vin à Bordeaux, avec son frère aussi, qui faisait les vues, les peintures. C'était des travailleurs très consciencieux, très bons dans ce qu'ils faisaient. Et ils avaient cette même exigence, cette même implication dans la musique. Et donc le petit ensemble qui avait l'air de rien, Diabolus in Musica, c'est grâce à eux, ils ont même trouvé le nom. Je trouvais très très bizarre ce nom. D'ailleurs, beaucoup de gens le trouvent bizarre encore maintenant. Mais moi, ça me plaisait pas, c'était trop long. Puis il faut expliquer ce que c'est. C'est un intervalle, c'est le triton entre Fa et Si. Mais Si, le nom de la note Si n'existait pas au Moyen-Âge. Et puis en plus, ça vient d'un écrit théoricien du Moyen-Âge du XIIIe siècle, c'est ce qu'on dit, mais en fait c'est apocryphe, on n'a jamais retrouvé cette expression, mais c'est passé dans le langage commun. Enfin, tout était compliqué avec ça, mais en fait, c'était trop tard, c'était parti, on a commencé à faire des concerts, on a même préparé notre premier disque déjà, très tôt, donc on a gardé le nom, et puis il y en a qui l'aiment beaucoup ce nom-là, en fait, donc on a bien fait de le garder. Je ne sais plus pourquoi je disais ça,
je digresse. J'en étais au professeur de chant.
Oui.
Et donc, vous disiez que le premier professeur de chant que vous avez eu, c'était à Pau.
C'était à Pau, puisque habitant encore Pau, dans les suites de ce stage de 4 jours, je démarre quelques répétitions avec Dominique, Pierre et Agnès, la fratrie Touron, l'ensemble Diabolus in Musica. Et tout de suite, j'accroche, mais à fond, je trouve extraordinaire tout ce qu'ils me font connaître, les trouvères, les troubadours, les motets des grands manuscrits du XIIIe siècle, Montpellier, Bamberg, et puis Machaut, un continent à découvrir, un des plus grands artistes de notre histoire, à la fois en littérature et en musique. Je découvre plein de choses, donc j'accroche à fond. Et en fait, je deviens un petit peu, petit à petit, la locomotive de l'ensemble Diabolus in Musica. Et ils en sont très, très heureux, Dominique et Pierre, puisque Agnès a arrêté assez rapidement. Et on fait les premiers concerts en 1987, donc je me dis, ça devient sérieux, il faut peut-être quand même que je commence à travailler ma voix, mais je vous dis, j'ai 29 ans. Donc. Et par des amis à Pau, je rencontre Robert Massard, qui a fait une carrière d'opéra, qui a été un des grands barytons français, une carrière extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas Robert Massard, mais on m'a dit, va le voir, c'est quelqu'un de très très bien. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, 75 ans, vous donnez l'exemple, vous sortez des sols aigus encore, qui faisait trembler les fenêtres, enfin c'était très impressionnant et qui m'a bien secoué. Après, je suis parti de Pau rapidement, mais voilà, il m'a quand même fait découvrir beaucoup de choses.
Quoi d'autre ?
Oh ben, j'étais très émotif, et puis je sortais de nulle part, j'avais aucune technique. J'avais une jolie voix naturelle, une voix blanche qu'il fallait évidemment ancrer dans le corps, muscler un peu, comme on dirait. Et ce que j'ai jamais vraiment réussi à faire, sinon je serais encore chanteur. Vous savez, j'ai arrêté il y a une vingtaine d'années, un peu moins, vers 2002-2003. Parce que j'ai pas réussi à être aussi bon que mes collègues. J'ai une équipe de chanteurs extraordinaire. Non, certains sont là depuis depuis 30 ans, hein, depuis les premiers concerts de l'ensemble en 1992. J'ai des chanteurs d'un niveau vraiment extraordinaire. Donc moi, je n'étais pas à ce niveau-là. Il s'agissait pas de nuire à la qualité en aucune manière de Diabolus. Donc je les ai laissés faire. J'ai laissé faire ceux qui savaient. Et moi, j'ai arrêté de chanter. Je me suis reconverti en harpiste.
Avant d'en venir à toute cette carrière professionnelle, il y a les balbutiements, Antoine Gerber, il y a évidemment donc la découverte et puis la participation à d'autres ensembles, mais peut-être même avant tout ça, j'aurais aimé peut-être que vous nous racontiez qu'est-ce qui vous a fasciné? Je veux dire, quand vous tombez dans ce monde comme ça de la musique ancienne, c'est à la fois, on l'entendait, la notation, la musique, il n'y en a quand même pas tant qui se jouent aussi, donc c'est plutôt tomber amoureux d'un univers, d'un monde à découvrir, ou justement de l'idée de cette friche.
C'est très difficile à expliquer, mais je me souviens très très bien de choc. Voilà, je suis pas tombé assis par terre, mais vraiment de choc émotionnel en écoutant, par exemple, la messe de Guillaume Dufay, C'est la face épale, par David Monroe. Le début de ce Kyrie avec les voix qui montent en demi-sol vers le sol aigu. J'ai toujours eu l'impression du soleil qui apparaissait au bout de l'horizon tout d'un coup et qui s'éclairait. Et j'ai jamais eu ces sensations en écoutant Beethoven, que par ailleurs j'écoutais très peu, ou de la musique rock ou folk, qui était ce que j'écoutais quotidiennement. J'ai eu d'autres choses qui s'ouvraient dans ma tête, vraiment des musiques qui me touchaient en plein cœur, vraiment en plein cœur. J'ai eu la même sensation, alors peut-être moins esthétique, mais encore plus impressionnante en écoutant la messe de Machaut, par Konrad Roland, donc c'est des interprétations qu'on ose à peine écouter maintenant. Voilà, la musicologie et la qualité des interprètes a tellement progressé depuis 30 ans, 40 ans, mais ça avait le mérite d'exister. Ce sont des gens, non pas qu'ils étaient plus bêtes que nous ou moins forts, mais il y a tellement de savoir musicologique et de pratique depuis 30, 40 ans. On est vraiment maintenant dans l'excellence, et d'ailleurs, une de mes très grandes fiertés, c'est d'avoir accompagné cette montée en puissance, parce qu'il faut voir ce qu'on disait des répertoires du Moyen-Âge ou ce que certains disent encore peut-être, mais il y a 30 ans, 40 ans, on était des ovnis absolus. Donc en écoutant la messe de Machaut de Konrad Roland, j'ai été impressionné par la force de cette musique. Donc c'est des musiques très simples, si on parle en accord, c'est toujours les trois ou quatre mêmes accords, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et qu'il faut l'appréhender, mais c'est des musiques qui sont enracinées, j'ai toujours senti ça. Et même la monodie du grégorien ou un chant de trouvère, un chanteur a cappella, on peut pas faire plus dépouillé, plus simple, mais moi j'ai toujours senti une puissance là-dedans. Donc il n'y a pas de puissance sonore, c'est pas du tout ça. Un chanteur tout seul, il se met pas à hurler, mais c'est enraciné et c'est très fort, c'est très puissant. Et la monodie, avec les modes musicaux qu'il exprime, la monodie, donc les huit modes grégoriens, c'est ça que je ressens, de la force. C'est curieux, mais je peux pas expliquer pourquoi. Après, on peut tomber dans des explications plus mystiques. Et comme je disais au départ, on a tous ça en nous. Le Moyen-Âge coule dans nos veines. On a tous des ancêtres au Moyen-Âge. On a tous quelque chose en nous. Quand on voit certains lieux, certaines architectures, on est très impressionné par la beauté. Mais pourquoi on trouve ça beau? Mais parce que nos ancêtres l'ont été aussi. Et je crois vraiment en cette transmission de patrimoine et de répertoire. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 30 ans.
Antoine Gerber et Raphaël Boulet pour refermer avec cette chanson a cappella le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Antoine Gerber. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Hélène Langlois, mixage Bastien Varigaud, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.